France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. C'est la plus forte hausse de morts du coronavirus en Chine. Le gouvernement chinois y annonce 242 décès supplémentaires, soit au total plus de 1300 morts depuis le début de l'épidémie. Tous sont recensés dans la province de Hubei, au centre du pays, alors que quelques heures plus tôt, le président Xi Jinping se félicitait de l'évolution positive de cette épidémie. C'est beaucoup trop tôt pour prédire la fin du coronavirus, voilà ce que répond l'Organisation mondiale de la santé qui appelle à l'extrême prudence. En France, en revanche, 2 des 11 patients infectés sont sortis de l'hôpital, ils sont guéris. Le directeur général de la santé indique également que les rapatriés mis en quarantaine il y a près de 2 semaines dans le sud-est pourront sortir du centre de vacances de Carry-le-Rouet dès demain. Après une visite à Chamonix, un dîner avec des écologistes et des scientifiques, après une nuit passée au pied du Mont Blanc, Emmanuel Macron visitera ce matin la mer de glace. Il doit y annoncer des mesures en faveur de la biodiversité dans la région. Et pendant ce temps, un rendez-vous important aura lieu ce matin à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe réunit syndicats et patronats pour leur soumettre des mesures sur le minimum de pension, la pénibilité et les fins de carrière. L'allongement de la durée de travail est toujours au cœur de la réforme des retraites. Patrick Balkany se réveillera tout à l'heure à Giverny dans sa résidence du Moulin de Cossy. Il a été libéré hier après-midi sur décision de la Cour d'appel de Paris. La Cour a en fait pris en compte l'état de santé de l'élu qui souffre d'une grave pathologie digestive. Patrick Balkany était incarcéré depuis le 13 septembre dernier à la prison de la Santé. Il sera fixé sur son sort le 22 avril prochain dans le dossier en appel de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et puis soulignons enfin ces perquisitions aussi. Siège de l'éditeur Gallimard hier à Paris, les enquêteurs recherchent des écrits de Gabriel Matzneff qui ne figureraient pas dans ses livres publiés. Une enquête, je vous le rappelle, est ouverte contre l'écrivain pour viol sur mineur de moins de 15 ans.
François Mitterrand est élu président
Une série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80. Projet Orloff, la fiction de France Culture en podcast original.
Très bien, passez-moi la communication dans le salon de bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien.
J'ai potentiellement un énorme scandale d'État.
Projet Orloff, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, sur franceculture.fr, à vos casques.
Semaine spéciale municipale 2020 sur France Culture, Xavier Mauduit.
Cette semaine, culture et territoire, autrement dit, l'œuf ou la poule. Est-ce la culture qui fait le territoire ou bien est-ce le territoire qui fait la culture? Sans doute un peu des deux dans une longue conversation. Fouilles archéologiques, musées municipaux, fêtes au village et scènes nationales, quels liens étroits entretiennent territoire et culture?
Le cours de l'histoire du lundi au vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Et à 6h03 sur France Culture, c'est Toufik Hakem qui vous accompagne jusqu'à 6h30.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel. Au programme, musique électronique, pop et mélodique, celle particulièrement étrange et entraînante que confectionne depuis Marseille, sa ville d'adoption, Simon Henner, de son nom d'artiste, French 79, à moins que ce soit French 79. Il va nous le dire dans un instant, c'est notre invité ce matin et on écoute d'ailleurs déjà un extrait de son second album récemment sorti, Joshua.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Thank you. chansons et vieux synthétiseurs. Bonjour Simon Henner.
Bonjour.
Comment définir votre musique d'abord? C'est French 79 ou French 79?
Oh, c'est pas vraiment important. Moi je dis French 79, mais j'aime bien quand on dit French 79 aussi.
Bon, alors pourquoi French 79?
Bah tout simplement parce que je suis
français. Genre je l'ai pas lu dans le dossier de presse que ça renvoyait à votre date de naissance.
Voilà, c'est ça. Je suis tout simplement né en 1979.
Voilà,
et je suis français.
Et puis surtout, ça renvoie à une boisson. J'ai appris qu'il existe quelque part en France une boisson, un cocktail qui a pour nom French 75.
Ouais, c'est ça. J'avais fait une petite liste quand je cherchais un nom de plein de choses que j'aimais bien. Et dedans, il y avait le French 75, qui est un cocktail à base de gin et de champagne et de citron. C'est assez simple. Voilà, dans cette petite liste, il y avait ça, et j'ai décliné un peu quelques noms, et voilà, c'est venu comme ça.
Et si on devait parler maintenant de votre musique, c'est un cocktail de quoi? Parce qu'on entend vraiment toutes ces vieux synthétiseurs.
Après, le son des synthés, ça c'est plus une histoire d'arrangement, et ça c'est presque moi qui me fait plus plaisir qu'autre chose, en fait, parce que j'aime bien avoir des vieux synthés devant moi qui marchent pas très bien, qui parfois sonnent un peu faux... Et c'est ce qui fait que bah des fois on va tomber sur des petits trucs de hasard qui font que ça va être un peu plus original que si c'est fait uniquement par un ordinateur.
Alors vous êtes localisé à Marseille, c'est pas votre ville natale mais votre ville d'adoption. Ça fait combien de temps que vous vivez à Marseille, Simon Henner?
Eh ben ça fait je crois quand même 18 ans.
Ouais.
Ouais, ça fait un petit moment.
Oh, et ouais. Du coup le petit accent qui revient, l'accent marseillais qui revient.
Avant,
je le précise parce que tous les gens qui vous suivent depuis quelques années, là c'est votre second album qui sort, Joshua, mais ceux qui vous suivent depuis le premier album disent que la mer vous influence beaucoup dans vos compositions musicale. Est-ce une manière de rappeler que vous êtes juste marseillais ou parce que vous avez un studio installé, paraît-il, dans un bateau ou est-ce que vous jouez aussi effectivement avec les éléments que sont le vent, le mistral, la mer?
Oui, alors c'est pas vraiment mon studio, n'est pas installé dans... J'ai un studio qui est juste à côté du port et effectivement je vis dans un bateau sur le vieux port de Marseille. C'est pas spécialement la... J'essaie pas de retranscrire la mer ou les éléments dans ma musique, mais c'est juste que ça m'influence dans le sens où j'ai besoin d'aller un peu m'évader, d'aller faire un peu de voile, d'aller faire des choses comme ça pour pouvoir ensuite m'enfermer pendant 10 heures de suite au studio. Quand j'ai pas eu cette petite dose d'adrénaline, de nature et de mer, de vent, comme vous dites, j'arrive pas à travailler correctement en tout cas. Donc voilà, j'ai besoin de ça pour pouvoir faire de la musique et pour pouvoir passer des heures et des heures au studio. Et je pense que c'est de cette manière-là que ça influence peut-être ma musique.
Alors, s'il fallait parler maintenant de votre itinéraire, Simon Henner, vous êtes musicien, vous avez été guitariste et vous êtes chanteur, vous avez été même guitariste et chanteur dans des groupes, un groupe d'électro-rock, le trio Nasser, et puis aussi dans une formation plutôt pop, Husband.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais.
J'ai commencé petit par le conservatoire, donc j'ai fait du piano et j'ai fait beaucoup de percussions, donc de batterie. Donc non, vraiment, mon début, c'était en tant que batteur dans des groupes de rock. Et j'étais jeune en tant qu'ado. Et voilà, après, je me suis remis au piano un peu sur le tard. Et c'est en m'y remettant vers 18-20 ans, c'est là que je me suis remis vraiment à apprécier le piano. Et en fait, à composer, parce que composer avec une batterie, c'est pas évident. Donc c'est là que quand j'ai reposé les mains sur le piano, j'ai commencé à, vu que j'étais pas très bon techniquement, j'ai commencé à, et que j'avais plus envie de, vu que j'ai fait le conservatoire, j'en ai un peu
fait le tour.
J'ai un peu mangé du solfège pendant pas mal d'années, et donc j'avais envie de me sortir un peu des partitions. Donc je me suis mis plutôt à improviser sur le piano, et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la façon d'aborder la musique plus par la composition que par la technique instrumentale. Donc c'est ça qui m'a plu et depuis j'ai pas arrêté de composer. Donc après forcément j'ai fait plein de styles de musique parce qu'il y a des choses super bien dans tous les styles. Donc j'ai fait du rock, de la pop, là maintenant je fais de la musique électronique, des musiques de films, des choses comme ça. Donc voilà, moi j'essaie de faire un peu tout. Ce qui me plaît, c'est la composition.
Et les instruments de musique, où vous entendez suffisamment bien avec les logiciels?
L'ordinateur aujourd'hui, il est quand même assez indispensable, tout simplement pour s'enregistrer. Avant, on s'enregistrait sur des bandes. Aujourd'hui, les bandes, c'est devenu hors de prix. Donc, on est un peu obligé de passer par l'informatique. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est plutôt bien. Mais non, ça reste quand même dans mon studio. Il y a plein d'instruments. Il y a les instruments classiques. Plein de claviers, plein de synthés, mais aussi beaucoup de guitares, des basses, des batteries, des micros. La seule chose que je ne sais pas du tout faire, j'aimerais bien, mais bon, c'est les instruments avant. Ça, je suis incapable de souffler dans un instrument.
Alors, vous avez utilisé des synthétiseurs pour cet album, Joshua, Simon Henner ou French 79?
Oui, j'ai utilisé beaucoup de synthés, ouais, ouais, beaucoup de synthés. Voilà, j'essaie de renouveler mes synthés à chaque album que je fais parce que c'est quand même une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration parce que chaque synthé a quand même une âme et chaque synthé fait un son particulier. Et la manière dont on modifie le son avec tous ces boutons, bah, c'est propre à chaque synthé. Et donc moi j'aime bien faire travailler comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon album, je revends des synthés pour en racheter d'autres, pour essayer de redécouvrir des nouveaux sons et reprendre plaisir à remettre les mains sur un synthé. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et voilà.
Et ça donne ceci. Louise et Thelma, c'est le titre de ce morceau extrait de votre dernier album, Joshua Simon Henner French 79. Ça renvoie à un film connu, bien sûr. Mais alors, vous avez utilisé quel instrument pour ce morceau? Qu'est-ce qu'on entend?
Précisément, on entend une boîte à rythme, c'est une TR-808. Pour tout ce qui est rythmique, on entend un prophète qui est un vieux synthé fait par Séquentiel Circuit, exactement. Pour tout ce qui est l'intro et toutes les nappes. Et le thème a été fait par un SH-101. Voilà, c'est des vieux synthés, mais qu'on retrouve aujourd'hui, qui se reproduisent parce que c'est des synthés qui ont fait école et qui ont été utilisés par tous les gens qui ont découvert ces sons-là. Je pense au Pink Floyd... à The Who, enfin plein de groupes comme ça qui finalement utilisaient des synthés sans trop le montrer. On savait pas à l'époque on croyait écouter du pur rock'n'roll et en fait il y avait quand même toujours des synthés derrière pour faire des petites basses ou des petits sons discrets, tout ça. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert par le tard en cherchant un peu, en fouinant dans sur le net, à savoir comment tel groupe a enregistré tel album et tout. Et en fait, on découvre des choses, on découvre pas mal de choses comme ça avec les synthés. Ouais.
Et pourquoi donner ce titre? Pourquoi cette référence à ce film précisément?
Bah, parce que tout cet album tourne autour un peu des films qui m'ont marqué dans mon adolescence. Et celui-là en faisait partie. Et bon, le fait d'inverser les prénoms, c'était plus une petite chose rigolote.
Alors, est-ce que votre musique est portée par des sentiments?
Bien sûr, elle est portée par des sentiments, elle est plus portée par des émotions, parce que je trouve que des sentiments, traduire un sentiment dans une musique sans avoir de parole, c'est pas évident, alors qu'une émotion, ouais, c'est plus quelque chose qui se transmet, je trouve.
Par exemple, là, c'est quelle émotion? C'est une nostalgie heureuse?
Voilà, c'est ça. Non, c'est joliment dit, parce que j'aime pas trop employer le mot nostalgie tout seul, parce que c'est vrai que c'est un peu, des fois on le trouve un peu péjoratif, ce mot, on le trouve un peu négatif, alors qu'en fait non, c'est quand même
il faut dire vintage, alors
ouais, voilà c'est un peu préparé, c'est ça. Non, voilà, c'est des choses qui rappellent mon adolescence et tout ça.
Elle était marquée par quel style de musique écoutait votre adolescence, Simon Henner?
J'ai écouté beaucoup de... Alors, mon adolescence, on va dire, c'était quand même assez rock'n'roll, parce que j'ai eu ma période Nirvana, dans la musique qui sortait à mon adolescence. Hein. Mais après, j'écoutais beaucoup ce qu'écoutaient mes parents aussi, c'était les Doors et Pink Floyd, les Beatles, évidemment, voilà. Mais après, mon adolescence, ouais, c'était quand même plus tourné vers la musique, forcément, de ma génération, des années 90.
Donc les musiques électroniques et le hip-hop.
C'est ça, les Beastie Boys, voilà, aussi Daft Punk évidemment qui m'ont amené vers la musique électronique. Hein, c'était en 96, je crois. Voilà, c'était ça mon adolescence.
Et quand vous composez des musiques, Simon Henner, ce sont des musiques qu'on écoute comme moi. J'ai écouté votre album, c'est-à-dire très seul dans mon casque ou en me baladant, ou c'est des musiques qui sont destinés à être joués sur scène dans des clubs.
Alors sur l'album, c'est quand même des chansons. J'essaye en tout cas au maximum de faire en sorte qu'on puisse les écouter comme vous justement au casque, dans le train, dans le métro ou dans l'avion ou en marchant ou en allant faire un footing, en faisant du sport. Voilà, dans des situations, je dirais. Donc j'essaye en tout cas de les modifier, de faire en sorte qu'elles soient un peu plus péchues pour le live.
Donc, sur scène, donc c'est autre chose que l'album.
Alors c'est pas complètement différent, mais oui, les versions sont toujours un petit peu différentes. Ça, j'essaie de travailler là-dessus pour que voilà, ce soit peut-être un petit peu plus dansant et tout ça que sur l'album.
En tout cas, l'année 2020 s'annonce bonne pour vous. Vous êtes en tournée, Simon Henner. Vous allez passer un peu partout, à Londres, à Montpellier, à Lyon, à Lille, à Mulhouse, à Dijon, à Montréal. Et dans des salles ou plutôt dans des clubs?
Non, c'est que dans des salles. Hein. C'est-à-dire que je fais pas je suis pas bon DJ. En tout cas, moi, je suis plutôt musicien. Donc, je fais des lives entourés de mes synthés et tout ça. Donc, c'est plutôt des salles de concert. Ouais.
Ouais. Est-ce que les gens dansent sur vos musiques?
Ouais. J'aime bien les voir danser, en tout cas.
Bah alors, ils dansent comment? Parce que ce n'est pas non plus la musique électronique censée faire bouger les gens. Hein. On est plus dans des nappes mélancoliques, mélodiques.
Oui, mais c'est quand même je vois souvent les gens un peu fermer les yeux, écouter, mais en même temps bouger un peu les jambes quand même. Ça c'est un petit truc qui fait qu'on danse un peu quand même.
Allez, on va essayer demain matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Simon Henner ce matin, French 79, c'est un autre extrait de votre album Joshua qu'on vient d'écouter, un album avec des réminiscences plutôt électro, électronica.
C'est ça, ouais. C'est pas évident de fixer un style pour ce que je fais parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, mais ouais, Electronica, ça marche bien. Globalement, j'aime bien dire musique électronique. Je trouve ça assez simple.
Et de temps en temps, il y a donc cette voix, celle de Sarah Rebecca.
C'est ça, c'est une chanteuse qui vient du Mississippi et qui habite maintenant à Paris, mais avec qui j'ai collaboré sur le premier album et ça s'est tellement bien passé, et surtout simplement. On a recommencé sur le deuxième album parce que c'est quelqu'un qui sait écouter ou en tout cas qui m'a compris et qui sait ce que j'ai envie d'entendre et voilà, c'est quand même agréable.
Vous avez produit aussi d'autres artistes.
Oui, c'est un.
Vous avez même travaillé avec Vincent Delerme, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à la variété française.
Bah oui, ça va jusqu'à partout. C'est en fait c'est ce qu'on appelle la réalisation dans la musique, c'est-à-dire que c'est un auteur-compositeur vient souvent avec une suite d'accords, une ligne mélodique ou des paroles ou des choses comme ça, mais parfois veut aller un peu plus loin et veut par exemple avoir un album. D'électropop, alors qu'en fait, il sait juste faire de la guitare. Donc pour ça, il vient voir un réalisateur. Et moi, c'est ce que je fais en studio pour pas mal d'artistes. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Ouais. Et plus je sors de mon champ de compétences, plus je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça qu'avec Vincent Delerme, c'était un vrai plaisir de le faire.
Que se passe-t-il à Marseille, puisque vous faites partie de cette nouvelle scène musicale marseillaise, French 79, Simon Henner, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Est-ce qu'il y a effectivement un terreau pour des nouvelles expérimentations, comme vous faites, vous, dans cette électronique pop que vous nous faites propager de disque en disque, de concert en concert?
Ah oui, il y a de la place pour tout le monde à Marseille oui, bon, c'est sûr qu'il y a une prédominance de certains styles de musique, mais on est quand même une ville quand même tournée vers la musique, qui s'oriente vers plein de styles différents et plein de métissages qui sont très intéressants. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que toute la France est en demande de trucs qui sortent de Marseille, de projets un peu parallèles. Ah oui, mais donc il n'y a pas que ça à Marseille. Est-ce qu'il y a aussi ça? Et oui, il se passe vraiment plein de choses. Et je pense à la scène pop, à la scène électronique, à la scène rock garage aussi. Il y a des il se passe plein de choses à Marseille.
Quand vous parlez de rencontres, de mélanges, de combinaisons, dans votre cap bien précis, Simon Henner, en quoi Marseille a été pour vous une ville enrichissante?
Bah parce que c'est quand même une ville qui est ouverte sur plein de cultures différentes et ça c'est quand même ultra enrichissant, c'est-à-dire que on a l'impression un peu de voyager en faisant en prenant son vélo et en allant faire un tour à Marseille, et ça c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la voile et à ces choses-là qui dont j'ai besoin pour composer, j'ai besoin de m'évader, et cette ville-là elle permet, je trouve, de s'évader bien plus que d'autres villes en France, ouais.
L'évasion, donc.
Oui, l'évasion.
Enfin, sur scène, comment vous êtes, French 79? Vous n'êtes pas dans une configuration de DJ qui fait écouter sa musique?
Non. Je joue beaucoup d'instruments, de percussions, de synthés. J'ai beaucoup de synthés autour de moi.
Vous êtes seul sur scène?
Je suis seul sur scène, oui.
Entouré d'instruments et de machines?
Voilà, c'est ça. Entouré d'instruments et de machines. Et voilà, j'ai un passé avec plusieurs groupes, donc avec Osbands, avec Nasser, où j'étais plutôt à la guitare, au chant, ou voilà. Et là, c'était plutôt sympa de changer un peu. Et la musique électronique se prête bien à être tout seul sur scène, et c'est un défi qui est que je voulais faire. Et voilà, ça me plaît beaucoup en tout cas.
Avec une mise en scène, par exemple?
Oui, alors forcément, si c'est de la musique électronique, les gens ont toujours un peu de mal à comprendre ce qu'on fait sur scène. Parce que bon, c'est normal, hein, tourner des boutons, c'est beaucoup moins visuel que de taper sur une batterie. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est important de se noyer un peu dans un univers visuel pour avoir une cohérence sur le live qui dure assez longtemps. Donc il faut quand même mettre les gens dans une espèce d'ambiance, et donc ça passe aussi par les images.
Ouais. Alors ambiance, images donc, et les images, vous les choisissez vous-même?
Alors non, parce que moi je suis très partisan de chacun son travail. Moi je donne des idées, des directions, des choses que j'aimerais bien voir et tout. Mais par contre, je fais appel à des gens avec qui je travaille depuis le début pour faire les images et pour ceux qui ont fait ma pochette, ceux qui ont fait le logo, qui font les clips, voilà, toutes ces... J'ai un petit espèce d'entourage avec avec qui je travaille tout le temps et voilà, c'est mon petit cocon.
Bon, voilà. On a commencé cette émission en disant que vous faisiez de la musique électronique pop et mélodique, particulièrement entraînante, mais qui reste étrange dans le sens où on a l'impression de prendre du plaisir à être dans une forme de nostalgie. Comment vous, Simon Henner, définiriez-vous votre musique, la musique de Fringe 79?
J'ai toujours du mal à dire ça, mais oui, je dirais nostalgique. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, vous aviez dit nostalgique, puis un autre adjectif, il me semble.
Oui, étrange.
Étrange, ouais.
Voilà. Et entraînant.
Et entraînante, ouais.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Bonne année à vous, Simon Henner. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Fringe 79 pour cette année? Bah non, bah pas grand-chose, puisqu'apparemment, vous avez une tournée avec plein de dates. Il y a ce disque qui vient de sortir, Jouchoua.
C'est ça.
D'autres projets pour cette année?
Bah non, une belle tournée, que ça se passe bien, et puis que ça se... que j'arrive à bien tourner à l'étranger. Ça, c'est un bel objectif,
ouais. Ouais, voilà. Pourquoi?
Bah parce que tout simplement avec tous mes groupes, j'ai jamais réussi à faire une tournée aux États-Unis. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu attiré. C'est un
le
peu,
rêve américain.
Bah non, c'est pas le rêve américain, c'est plutôt le rêve de gosse de partir en tournée dans un van avec ses copains et d'aller faire toutes les salles.
Vous allez pouvoir le faire en France, vous avez des dates
à
Dijon,
oui,
à Mulhouse, à Lyon, à Lille et même au Canada, parce que vous allez faire Montréal, Québec, vous allez à Londres, ça je l'ai dit. La Cigale pour cette année s'est rappée, mais du coup vous allez avoir l'Olympia en janvier de l'année prochaine. Il faudra attendre une année, en 2021.
C'est ça, c'est ça. C'est ça, ça me fait... Je suis assez touché par cette date quand même, mais c'est ça.
Merci d'être passé dans le Réveil culturel.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Tous les jours sur France Culture, recherche, découverte, histoire des sciences, science-fiction, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
À un mois du premier tour des municipales, qu'est-ce qui détermine dans notre cerveau nos opinions politiques? Nous aurons également en plateau deux prix Nobel, Gérard Mourou et Donna Strickland, pour nous parler des lasers, et nous irons nous égarer dans les rues de villes imaginaires, de Coruscant à Métropolis, en passant par la sombre Gotham, comment la science-fiction remodèle l'espace urbain du futur.
La méthode scientifique, du lundi au vendredi à 16h et sur franceculture.fr.
Du 7 au 16 février, 30e édition du Festival Présence 2020, Festival de création musicale de Radio France, consacré au compositeur anglais George Benjamin. 18 concerts, 80 œuvres, 24 créations mondiales, 11 créations françaises, 60 compositeurs, plongés au cœur de la création. Informations et réservations, maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Après une nuit en altitude, Emmanuel Macron visitera ce matin la mer de glace sur le Mont Blanc. Il souhaite y promouvoir le virage écologique annoncé pour la suite du quinquennat. Analyse critique de cette séquence politique à suivre. Nous vous présenterons ensuite les enjeux d'une réunion à Matignon. Réunion ce matin sur les fins de carrière et la pénibilité, à l'heure où le gouvernement réforme le système des retraites. Dans ce journal aussi, nous irons en Iran, où débute la campagne électorale pour les législatives. Et puis au Brésil, après que le pape François a refusé l'ordination d'hommes mariés en Amazonie. Emmanuel Macron est donc en Haute-Savoie pour un déplacement sur le thème de l'environnement, thème qui, selon lui, marquera la seconde partie de son quinquennat dans la perspective de la présidentielle en 2022. Il se rendra tout à l'heure à 8h au bord de la mer de glace sur le Mont Blanc pour se rendre compte des effets du réchauffement climatique et de la dégradation du massif due à la fréquentation touristique. Le chef de l'État annoncera dans la foulée un certain nombre de mesures en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Mais cela sera-t-il réellement un signe de du changement de la politique d'Emmanuel Macron? Vraisemblablement pas, répond le politologue Simon Persicaud, enseignant à Sciences Po Grenoble, spécialiste des questions d'environnement. Depuis 2 ans et demi, dit-il, le discours d'Emmanuel Macron est en décalage avec ses actes.
Ce déplacement d'Emmanuel Macron, il s'inscrit un peu dans la ligne de ce que fait le président de la République en matière d'environnement, c'est-à-dire de communiquer beaucoup, proprement, sur ces enjeux. Après, je n'ai pas l'impression que ça s'accompagne de transformations radicales dans la manière de mener les politiques environnementales en France. La difficulté, c'est que les effets d'une politique de transition assez forte et vigoureuse seraient sans doute un peu douloureux pour un certain nombre de secteurs économiques, pour un certain nombre de secteurs d'emploi. Et c'est en ça qu'il y a vraiment une réflexion très importante à mener sur quelles sont les compensations, quelles sont les manières de redistribuer en fait les richesses qui accompagnent les politiques de transition. Mais il y a quand même toute une série de travaux qui indiquent le chemin qu'il faudrait suivre, sur lesquels Emmanuel Macron s'appuie pas forcément en priorité, puisqu'il est encore dans une logique portée par les élites de l'État et même les élites des grandes entreprises françaises. Une logique de développement basée essentiellement sur le critère économique comme seule valeur. Et ça implique du coup ce décalage en fait en matière de pensée de politique publique que pour l'instant il est vraisemblablement pas prêt à le faire.
C'était le politologue Simon Persicaud interrogé par Stéphane Robert. Pendant que le chef de l'exécutif parlera ce matin environnement, son binôme, le Premier ministre, gérera le dossier retraite. Édouard Philippe recevra tout à l'heure les partenaires sociaux à Matignon pour évoquer les fins de carrière et la pénibilité. La réunion va revenir sur les 4 grands thèmes de discussion entamés en décembre, Catherine Pétillon.
D'abord, le minimum de pension, 1 euros en 2022, puis 85% du SMIC en 2025. Voilà ce que prévoit le projet de loi. Les syndicats, eux, veulent accélérer ce calendrier et surtout relever le montant. On attend aussi des réponses sur l'élargissement de la retraite progressive, un dispositif aujourd'hui peu développé qui permet de travailler à temps partiel et de toucher une partie de sa pension. Reste à savoir dans quelles conditions et à partir de quel âge. Troisième enjeu, les transitions entre l'actuel et le futur système. Autrement dit, que deviendront les droits à la retraite acquis dans les règles actuelles? Mais le gros dossier, c'est celui de la prise en compte de la pénibilité. On sait déjà que le gouvernement ne veut pas réintégrer les 4 critères dont le port de charges lourdes et le risque chimique qu'il a retiré en 2017 du compte pénibilité, c'est ce que demandait la CFDT. Cela pourrait finalement prendre la forme d'une liste de métiers jugés pénibles par les branches, ouvrant droit à des dispositifs de reconversion ou d'aménagement de carrière, voire à un départ anticipé à la retraite. Pour Frédéric Seff de la CFDT, les annonces seront déterminantes pour la suite, à savoir la conférence de financement de la semaine prochaine.
On est nettement moins motivé à discuter du financement selon que le système est juste ou injuste. S'il n'y a aucun droit nouveau dans le système de retraite, ce sera difficile de demander aux Français d'éventuels efforts pour le financer.
S'il est peu probable que le Premier ministre dévoile aujourd'hui l'ensemble de ses arbitrages, cela devrait au moins donner une tendance.
Mais combien tout cela va-t-il coûter? Malgré l'appel d'Emmanuel Macron à défendre la réforme des retraites avant-hier, la polémique continue jusqu'au sein de la majorité puisque 2 piliers de la commission des finances à l'Assemblée interrogent l'exécutif sur l'impact budgétaire de cette réforme. Les 2 députés ont écrit au Premier ministre pour l'interroger sur les impacts justement de la réforme des retraites. C'était le dernier de ces procès pour fraude et pour blanchiment et le dernier jour de prison pour Patrick Balkany hier. La Cour d'appel de Paris a libéré l'élu malade après de fréquents séjours à l'hôpital. Il était incarcéré depuis le 13 septembre. La justice rendra ses décisions en appel dans les affaires qui impliquent le couple Balkany les 4 mars et 22 avril. Le nombre de décès bondit en Chine orientale. Les autorités comptent maintenant plus de 1350 morts, dont 242 rien qu'hier. Cette nuit, dans la province chinoise du Hubei, berceau de l'épidémie, le numéro 1 régional a été démis de ses fonctions par le pouvoir central. Idem pour le responsable de la ville de Wuhan. 3 millions de civils sont pris au piège en ce moment dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Parmi eux, près de 700 000 personnes ont pris la route. Elles s'entassent le long de la frontière turque qui leur est fermée. La peur s'installe face au bombardement du régime et de son allié russe, bombardement quasi quotidien. Le pire est à prévoir, selon le médecin humanitaire Raphaël Pitti, qui s'est déjà rendu 29 fois en Syrie et qui dénonce ses morts en silence.
C'est insupportable. à la fois une colère très très profonde, une colère d'indignation qui est profonde devant le massacre de cette population que l'on a conduit et que l'on a trompé en faisant croire que la zone de Idlib serait une zone de désescalade de la violence où ils pourraient venir se réfugier. Au fond, depuis 9 ans, on a accepté le massacre d'Alep, on a accepté le massacre de la Ghouta avec l'utilisation du chimique, on a accepté le massacre de Dera. Donc globalement, maintenant, un massacre de plus, il suffit de regarder ailleurs encore quelques semaines et puis de dire ben, la guerre en Syrie est terminée. C'est vraiment un déni d'humanité.
Des propos recueillis par Omar Waman. Et dans les enjeux internationaux, nous nous pencherons à 6h45 sur le pacte russo-turc ébranlé par cette offensive syrienne. Colère des Israéliens, satisfaction des Palestiniens. Hier, en fin de journée, le bureau de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a publié le nom de 112 sociétés qui ont des activités économiques dans les colonies israéliennes. De Airbnb à Alstom, la mesure est surtout symbolique. Partons maintenant en Iran où débute la campagne pour les législatives, des élections qui sont prévues le 21 février prochain, c'est-à-dire dans une grosse semaine. Et si l'on en croit nombre d'analystes iraniens, elles pourraient, ces élections, être un échec pour l'alliance formée autour du président Hassan Rouhani. Alliance portée par les modérés et les réformateurs, ils sont en difficulté, Valérie Crova.
Il est des signes qui ne trompent pas. Le Conseil des gardiens de la Constitution, organe chargé de la validation des candidatures aux législatives et dominé par les ultra-conservateurs, avait retoqué début février près de 10 000 candidats, pour l'essentiel réformateurs. S'ils ont la possibilité de faire appel de l'invalidation de leur candidature, le temps est désormais compté avant le scrutin prévu dans 9 jours, de quoi fausser la campagne qui démarre aujourd'hui. Fin janvier, le président iranien est monté au créneau, affaibli sur la scène intérieure. Hassan Rouhani a évoqué les menaces qui pèsent sur la démocratie iranienne. Les Iraniens ont le droit de choisir entre les différentes tendances, a-t-il redit il y a quelques jours lors d'un discours au mausolée de l'imam Khomeini. Hassan Rouhani ne cesse d'appeler ses concitoyens à aller voter, même s'ils ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Le clivage est de plus en plus marqué entre d'un côté les plus radicaux qui jouent la carte islamiste, de l'autre les réformateurs montrés du doigt après l'échec de la politique d'ouverture conduite par le président Rouhani et qui n'a pas abouti à la levée des sanctions. La population iranienne, en particulier les jeunes, en paye le prix. Iront-ils voter la semaine prochaine et pour qui? On sait que l'abstention joue traditionnellement en faveur du camp conservateur.
Le pape François ne retient pas l'idée de prêtres mariés dans les zones reculées de l'Amazonie. La région le demandait pour remédier à une pénurie de prêtres. Les évêques avaient même donné leur accord de principe à l'automne. Mais le pape a douché les espoirs des progressistes, Anne Vigna.
Permettre à des hommes mariés de devenir prêtres pour pallier le manque d'ecclésiastiques dans la région amazonienne était la proposition la plus audacieuse du synode pour l'Amazonie. Cette réunion exceptionnelle pendant 3 semaines en octobre dernier avait mis en lumière que certaines communautés doivent attendre jusqu'à 1 an pour pouvoir assister à une messe. Le recours à des femmes diacres avait été aussi proposé. Mais dans son exhortation apostolique post-synodale rendue publique hier, le pape n'en appelle qu'aux missionnaires pour faire face à l'hémorragie de vocation. Rien d'innovant donc sur ce chapitre et une solution peu réaliste si on en croit les conclusions du synode qui soulignait justement la disparition quasi générale des missionnaires. Ce document papal intitulé « Chère Amazonie » reprend pourtant plusieurs points chers aux progressistes. Il invite les prêtres à incorporer certains rites indigènes dans la liturgie catholique. Le pape dit aussi clairement que la destruction de la grande forêt est un crime tout comme les attaques sur les territoires indigènes. Une vision totalement opposée donc à celle du président brésilien, avec qui une partie de l'église catholique brésilienne s'est pourtant alliée, malgré l'avis contraire du Vatican.
La météo, à présent en France métropolitaine, elle sera pluvieuse sur l'ensemble du pays. Pour les températures comptées, 6 degrés à Lille et Lyon, 9 à Paris, 12 degrés ce matin à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara.
Ce matin, Jacques, dans votre journal des idées, la question des pouvoirs de l'image, elle est le sujet de plusieurs livres récents. Alors, ce n'est pas nouveau, mais Jacques, c'est toujours renouvelé du fait de la mystérieuse force de suggestion des images.
Eh oui, Clara, le paradoxe de l'image, c'est la contradiction entre sa force d'évidence et son caractère énigmatique, voire fuyant. Ce qui fait aussi que chacun peut y trouver son compte. Pour le site de critique En attendant Nadeau, Marie-Étienne a lu le dernier livre de Jean-Christophe Bailly, L'Imagement, en un seul mot, c'est publié au Seuil. Elle relève une autre forme de paradoxe dans l'image évoquée par l'auteur. Nous sommes devant quelque chose qui s'échappe, mais qui tout autant se tient dans une fixité. Quelque chose qui renvoie à une réalité tout à la fois absente et présente à travers elle. C'est ainsi, poursuit-elle, que selon Pline l'Ancien, la jeune fille d'un potier de Corinthe, Dibutade, entoure d'un très léger le visage de l'amant qui s'en va, projeté sur le mur par la lumière d'une lanterne, afin de le garder, de conserver sa trace en dépit de l'absence, inventant par là même le dessin, la peinture. Sur la couverture du livre de Jean-Christophe Bailly figure un dessin au crayon de Georges Seurat, « La maison hantée ». Toute image, écrit-il, est une maison hantée, toute maison est hantée par les images. Jean-Christophe Bailly qui souligne chez Seurat une intelligence spéciale de la façon dont l'image vient à l'image, dans un poudroiement, quelque chose s'organise ou des formes reconnaissables, au lieu de s'installer, ont l'air d'être en train d'apparaître ou peut-être de disparaître. C'est la force évanescente de l'image d'un être cher en son absence. Le titre du livre, L'imagement, est un néologisme pour désigner les processus qui conduisent aux images et les chemins qu'elles suivent pour installer dans la pensée la puissance de leur silence. Mais on peut le comprendre également comme une traduction littéralisante de la Bildung des Allemands qui désigne couramment la formation telle qu'on la retrouve dans le Bildungsroman, le roman de formation, et qui dérive directement de Bild, l'image. On entend aussi dans ce titre que l'image nous manque, elle nous abuse et nous raconte des histoires. L'image, écrit Jean-Christophe Bailly, confère à tout ce qu'elle touche et retient une valeur d'horizon. Pure ligne de fuite, elle est sans légende et son silence oppose un défi au langage. Platon lui reprochait déjà son mutisme, apparenté à celui de l'écriture, qu'il considérait comme une image de la parole, inaugurant ainsi un conflit qui traverse toute l'histoire de l'Occident. La célèbre formule « ut pictura poesis », comme la peinture, la poésie, va imposer une interminable rivalité qu'on peut suivre en deux temps forts, celui de l'iconoclasme sous toutes ses formes, puis celui du discours sur l'art, du moment qu'il cesse d'être simplement normatif ou descriptif, et qu'au siècle où les Lumières le disputent au romantisme, il accédera au registre de l'esthétique. Les éditions Macula publient le texte fondateur d'Ernst Kitzinger sur le culte des images avant l'iconoclasme, le soupçon d'idolaterie, donc du 4e au 7e siècle, le soupçon d'idolâtrie qui pesait sur ce culte dans le christianisme primitif du fait de l'interdit hérité de la loi mosaïque, n'a pas empêché les premiers chrétiens de prolonger la tradition gréco-romaine de la représentation figurée. L'historien s'étonne qu'avant la crise iconoclaste, lorsque la peinture et la sculpture commencent de pénétrer dans les lieux où se rassemblent les chrétiens et dans les cimetières, ni les adversaires du christianisme, ni ses apologistes n'y prêtent véritablement attention, tout engagés qu'ils étaient pourtant dans des controverses passionnées sur les idoles et l'idolâtrie. Du coup, affirme-t-il, dans toute l'histoire de l'art européen, il n'y a peut-être pas d'événement plus décisif que l'adoption de l'image taillée par l'Église chrétienne. Dès le début, les défenseurs de la pratique dévotionnelle des images avancent ses vertus comme instrument pédagogique, puis viendra la fonction apotropaïque pour conjurer le mauvais sort, voire prophylactique des images saintes comme celle de Siméon le Stylite placée à l'entrée des boutiques de Rome. Et enfin, on trouve dans la première moitié du 6e siècle un texte faisant allusion à la proskinésis, la prosternation devant des images. Jacques Rancière revient quant à lui aux origines de la révolution esthétique avec le temps du paysage, publié aux éditions La Fabrique. Le mot révolution est à prendre au sens historique car la sensibilité au paysage comme catégorie esthétique est contemporaine de la révolution française. Le temps du paysage, écrit-il, est aussi celui où l'organisation heureuse de la société emprunte ses métaphores à l'harmonie des champs, des forêts ou des cours d'eau.
6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux et ce matin, la guerre qui défigure Idlib en Syrie et le dialogue qui patine entre Turquie et Russie. Ankara et Moscou avaient donné le signal aux Syriens qu'Idlib serait une zone refuge, une zone démilitarisée, selon l'accord que ces deux acteurs majeurs du conflit avaient signé en 2016 à Sochi. 3 ans et demi plus tard, Idlib est sous les feux des combats entre le régime syrien appuyé par les avions russes d'un côté et les groupes rebelles soutenus par la Turquie. On parlait hier de la guerre et des bombardements en milieu urbain. Et bien à Idlib, en une semaine, 100 000 personnes ont fui vers la frontière turque. Paradoxe de cette relation entre Ankara et Moscou, deux acteurs qui se connaissent très bien, qui se sont menés au total 13 guerres en quelques siècles et qui, en Syrie, se considèrent comme garantes d'accords de paix signés ensemble, mais adversaires toujours aussi zélés sur le terrain. Bonjour Didier Billon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de la Turquie. Alors pour que l'on comprenne bien ce qui est en train de se passer d'un point de vue stratégique, il faut se remémorer la carte de la Syrie. La province d'Idlib est au nord-ouest, dernière poche de rébellion jusque-là au régime d'Al-Assad. Est-ce que, selon vos dernières informations, Didier Billon, qu'en est-il du rapport de force là en ce moment entre soldats turcs et forces loyales syriennes, pour le dire vite?
Il faut essayer de replacer dans son contexte très rapidement. Cette poche d'Idlib est le dernier point de fixation militaire qui existe en Syrie, comme vous l'avez rappelé. Or, depuis maintenant plusieurs mois, depuis le printemps dernier pour être précis, il y a une campagne de bombardement à l'instigation des Russes et des Syriens qui a été reprise. C'est-à-dire que cette région est sous le coup de bombardements multiples, mais nous constatons qu'au cours des dernières semaines, ces bombardements aériens massifs se sont renforcés, se sont accrus, se sont intensifiés, ce qui explique les crispations de ces derniers jours. Le rapport de force, il est plutôt favorable en réalité aux Russes et aux forces loyalistes syriennes, loyalistes à Bachar el-Assad, puisqu'il y a une remontée terrestre de ses troupes vers le nord, avec la prise d'un certain nombre de villes au cours des derniers jours et des dernières semaines. Et aujourd'hui se cristallise la question de la ville de Sarakeb. Sarakeb, c'est un point stratégique parce que à l'intersection de deux autoroutes, notamment les autoroutes M4 et M5, dont l'un d'entre eux relie Alep à Damas.
Donc c'est la M5.
Voilà, c'est ça. C'est un enjeu stratégique de toute importance. Et alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Turcs sont plutôt non pas sur la reculade, en tout cas pas encore, mais un certain nombre de leurs postes d'observation, et je les cite dans le texte, sont devenus des postes de combat, puisqu'ils sont encerclés par les troupes loyalistes de Bachar el-Assad et que, ma foi, ils n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre en réalité.
Ces postes d'observation, ce sont ces postes qui leur ont été accordés aux Turcs à la faveur des accords de Sochi signés en septembre 2018 entre la Russie et la Turquie. Est-ce que j'ai pas dit 2016 tout à l'heure?
C'est bien 2018.
En échange de quoi avait-il obtenu ces postes d'observation, 12 au total?
Alors effectivement, il y a les accords de Sochi de septembre 2018, c'est-à-dire que les Turcs, dans cette négociation, se sont fait fort de parvenir à un cessez-le-feu et de parvenir à la mise en œuvre d'une zone de désescalade. Il y en avait d'ailleurs d'autres sur le territoire syrien, mais c'était les Turcs qui avaient été mandatés pour s'occuper, pour mettre en œuvre ces zones de désescalade à Idlib. Sauf qu'il y avait un jeu de dupes, et je crois que les dirigeants turcs se sont fait piéger par Poutine en l'occurrence. C'est que Idlib, comme vous l'avez succinctement rappelé, c'est une poche où se trouve un concentré de forces djihadistes, puisque au cours des années antérieures, à chaque fois qu'une place forte des djihadistes tombait sous les coups des Iraniens, des Russes et des forces loyalistes de Bachar,
Ils allaient à Idlib.
Il y avait un processus de négociation et une partie de ces combattants étaient envoyés vers Idlib. Donc on savait que tôt ou tard, il y allait avoir un affrontement, puisqu'évidemment, vous vous en doutez, les djihadistes, pour leur part, se sont tout à fait refusés aux demandes turques de désarmement et de cesser le feu. Et donc, les Turcs se sont avérés totalement impuissants. Et on peut d'ailleurs en comprendre des raisons. Mais ils se sont, disons, un peu poussés du col en prétendant parvenir à leur fin. Et Poutine, ainsi que Bachar el-Assad, à plusieurs reprises ont dit « Mais si les Turcs ne parviennent pas au mandat qui leur a été confié, alors nous allons, nous, régler l'affaire et nous savons comment les Russes et les dirigeants syriens les affaires, c'est par la guerre, c'est par les bombardements massifs, ce qui est en cours, comme on l'a rappelé succinctement. Et donc les Turcs aujourd'hui, et d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue politique et diplomatique, sont comme piégés. bloqués par la situation, dont ils vont avoir quelques difficultés à sortir par le haut.
Mais donc si les Turcs, si l'on vous suit bien, si les djihadistes, notamment du groupe Hayat Tahrir al-Sham, c'est le groupe présent dans cette zone, sont aujourd'hui, n'ont pas déposé les armes, la Turquie n'a pas réussi à leur imposer ça, et sont en train de combattre soutenus par les Turcs, alors les Turcs sont-ils en train de défendre la population syrienne ou ces djihadistes ?
Non, c'est les Turcs, on ne peut pas dire que les Turcs soutiennent en tant que tels
les djihadistes
al-Sham. Non, ça serait trop exagéré. Aujourd'hui, les Turcs ont une préoccupation majeure, outre que de sauver la vie de leurs soldats. Je rappelle quand même que depuis 2 semaines, il y a 12 de soldats turcs qui ont été tués au combat, ce qui, vous vous en doutez, attise les sentiments nationalistes en Turquie, qui en rajoutent beaucoup, certains prétendant même en Turquie que désormais la seule solution, c'est d'aller jusqu'à Damas pour faire chuter le régime de Bachar al-Assad, rien que cela.
C'est ce que dit la presse turque.
Absolument. Une partie de la presse turque, la partie la plus nationaliste, y compris le dirigeant M. Bahçeli, qui est le dirigeant du Parti d'Action Nationaliste, qui est un parti d'extrême droite, qui est allié à M. Erdogan. Erdogan, pour sa part, est beaucoup plus prudent sur cette question et ne fait pas d'écart de langage en ce moment, et tant mieux, ma foi. Donc, la grande préoccupation des Turcs, outre que de sauver, de protéger leurs soldats, c'est d'éviter, et ça c'est une préoccupation que l'on peut comprendre, un nouvel afflux de réfugiés. Parce que on sait que sur une population à Idlib, dans la province d'Idlib, d'environ 3 millions de personnes, il y aurait entre 400 et 700 000 personnes qui ont été déplacées, et comme vous le disiez tout à l'heure, environ et probablement un peu plus 100 000 personnes qui sont massées à la frontière. Or, je rappelle quand même que les Turcs ont 3 600 000 réfugiés syriens sur leur propre sol et font tout pour éviter qu'il y ait un nouvel afflux de réfugiés. Ce que je peux comprendre, et on peut le comprendre aisément. Ça, c'est la première chose, et je pense que le compromis, en fait, portera là-dessus. C'est-à-dire que tôt ou tard, et à mon avis, le plus tôt sera le mieux, il faudra bien que les Turcs replient leurs troupes dans l'ordre et la discipline, comme l'on dit en général, et en échange, ils auront l'assurance qu'il n'y ait pas un nouvel afflux de réfugiés. Je pense que c'est un peu les termes du débat conjoncturellement et la façon de sortir par le haut, si je puis dire, de cette crise. Quand je dis par le haut, je ne veux pas faire de cynisme, ce n'est pas mon habitude. Il faut bien comprendre que la situation médicale, sanitaire et humanitaire de la zone d'Idlib est absolument catastrophique, puisqu'évidemment, les bombardements aériens, outre les cibles militaires, ont ciblé, comme d'habitude, les dispensaires, les hôpitaux, etc. Donc on est véritablement dans une situation de chaos.
Si la Turquie ou si Erdogan s'est fait avoir, selon les termes, je crois que vous avez employé, Didier Billon, est-ce que c'est pas non plus qu'il a lui aussi un problème de stratégie ou c'est un problème de force de frappe militaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment a-t-il pu à ce point-là échouer dans les termes de l'accord qui avait été défini?
Non, je pense que c'est pas une question fondamentalement militaire. L'armée turque est encore une armée assez efficace, bien qu'elle ait été en partie purgée à la suite du coup d'État. Je rappelle toujours que 45% des généraux d'état-major avaient été mis à la retraite d'office. Donc tout cela, évidemment, rend les capacités opérationnelles de l'armée turque moins efficientes qu'elles ne l'étaient il y a 5 ou 10 ans. Néanmoins, cela reste une grande armée avec des troupes combattantes efficaces, notamment les troupes spéciales qui sont sur le terrain avec une force de frappe incontestable. Mais c'est politiquement, en fait, Idlib, l'accord d'Idlib avait été accepté par Erdogan parce que c'était un moyen de se remettre au centre du jeu syrien. On se rappelle qu'il était quand même très marginalisé à un moment donné. Je rappelle aussi que la préoccupation principale de Erdogan et de l'État turc, c'est la question kurde, mais les Kurdes ne sont pas Idlib, mais c'est toujours en arrière-fond, et que aujourd'hui, la question, elle est fondamentalement politique, c'est comment pouvoir peser politiquement sur la résolution du conflit syrien. Mais c'est un jeu de dupes en partie, parce que nous savons que celui qui détient quasiment tous les fils de règlement du conflit syrien, ce n'est pas M. Erdogan, c'est bien évidemment M. Poutine.
Sauf qu'Erdogan, lui, dit que son interlocuteur à lui, c'est Bachar al-Assad, qu'il ne veut pas que les Russes se mettent en travers. Mais alors, que ne lui parle-t-il pas à Bachar al-Assad?
Oui, c'est très important. C'est exactement ce que disait Erdogan il y a une semaine. Il ne dit plus tout à fait cela aujourd'hui. Et la preuve, c'est qu'au cours du week-end, il y a eu 2 jours de discussions assez âpres entre des dirigeants turcs, des politiques, des militaires et des représentants, absolument, et des représentants des services de renseignement des deux pays, ce qui prouve qu'en réalité, le véritable interlocuteur incontournable de la situation et de la solution, c'est bien Poutine et les envoyés de Poutine.
Bon, et dans tout ça, il y a toujours une dose de cynisme. Alors, je vous pose cette question, Didier Billon. La Turquie reste un partenaire commercial très important pour la Russie. Elle lui achète son gaz, mais aussi ses missiles anti-aériens S-400. Est-ce que Turquie et Russie peuvent vraiment se fâcher?
Ils sont fâchés, mais ils ne vont pas rompre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une intensité des relations commerciales. C'est environ 20 milliards de dollars annuels d'échanges entre les deux pays. C'est le déploiement au cours de l'été dernier des missiles antimissiles russes, ce qui a suscité beaucoup de débats au sein de l'OTAN. C'est la construction d'une centrale nucléaire, la première centrale nucléaire turque faite par les Russes. C'est l'accord Turkish Stream, c'est-à-dire la livraison de gaz russe à la Turquie et la Turquie servant de hub énergétique. Donc tous ces éléments montrent qu'il y a plus d'intérêt que d'inconvénients à se fâcher et qu'en réalité, chacun sait jusqu'où ne pas aller. Les tensions actuelles sont réelles entre les deux pays, mais ils ne vont pas rompre, ça c'est une certitude.
Et pour l'instant, ils ne se voient plus, en tout cas visuellement, ils ne se serrent plus la...
Les deux dirigeants ne se croisent plus du regard, mais ils ont beaucoup d'émissaires et d'envoyés réciproquement qui se rencontrent eux beaucoup.
Merci beaucoup Didier Billon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS et je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un peu, beaucoup, passionnément, et puis moins parfois. L'amour, toujours l'amour. Sonia Kronlund.
Un psychiatre et une psychologue reçoivent des couples en crise. Entrez dans leur intimité et suivez leur histoire. 3 couples, 5 épisodes, pas mal de ressentiments, mais beaucoup d'espoir. C'est la Clinique de l'amour, le nouveau podcast des Pieds sur Terre, raconté par Delphine Saltel.
La Clinique de l'amour, nouvelle série en podcast original des Pieds sur Terre, dès le 13 février sur franceculture.fr, l'appli Radio France et toutes les plateformes dédiées.
Penseur de la technique, braqueur devenu philosophe en prison, Bernard Stiegler a voix nue cette semaine sur France Culture.
Ce qu'on appellerait dans le langage sociologique un paria. Voilà. Donc je suis en dehors du monde complètement. À partir de là, je me suis dit, j'ai la chance extraordinaire d'être dans un laboratoire phénoménologique à plein temps. Et donc je vais pouvoir produire des expériences philosophiques uniques dans l'histoire du monde.
À voix nue, Bernard Stiegler par Céline Lauzon, du lundi au vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes et à tous.
6h57, c'est l'heure de votre humeur du jour. Guillaume, il y a chasseurs et chasseurs.
Eh oui, il existe des chasses de différentes natures, chacune d'entre elles soulevant des réactions particulières des chasses populaires et des chasses seigneuriales, ces secondes incarnées par la chasse à cour qui demeure en France comme une permanence, alors comme un vestige, diront les autres. Et ce type de chasse suscite de plus en plus de protestations, comme le rappelle Libération. Aujourd'hui, les veneurs constituent pour certains maires, je cite, un trou à l'ordre public parce que les animaux traqués ont peur, ils se réfugient où ils peuvent parce que la cruauté de cette pratique semble comme redoublée par la majesté des animaux traqués. La vénerie est une forme de chasse qui parle au cerveau reptilien des êtres, à l'instar de la corrida, comme si dans nos esprits pacifiés de modernes, il restait une place inexpugnable pour le goût du sang. Dans la chasse à cour se mêle une pratique extrêmement codifiée, en apparence très évoluée, et un inconscient parfaitement barbare, la rencontre de la plus haute civilisation et des instincts les plus primitifs sur une table de dissection, comme dirait l'autre. Et l'on songe au plus barbare des romans de Zola, La Curée. Parce que La Curée, c'est bien entendu la meute. En anglais, ce roman a été traduit sous le titre The Kill. Mais aussi parce que La Curée, c'est cette pratique qui donne le vertige aux anthropologues. La Curée, ce sont les bas morceaux des bêtes tuées, les entrailles des animaux morts qu'on donne aux chiens après la chasse à cour, parce que les viscères, comme récompense, vont les inciter à mieux chasser encore la fois prochaine. Et comme l'écrit Zola, âpre à la curée, une bourgeoisie dévorante menant la curée parmi les ruines. Car pour Zola, la curée symbolise le règne de l'argent monstre. De cette chasse à cour survenue au mi-temps du 19e siècle, lorsque l'on se mit à éventrer Paris sous le baron Haussmann pour en donner les viscères, le ventre, mais pas seulement, aux spéculateurs. La curée, c'est le roman le plus scandaleux de Zola, mettant en scène un quasi-inceste, la belle-mère s'abandonnant au beau-fils, comme si le capitalisme sous sa forme sauvage conduisait la meute à piétiner les liens les plus sacrés, comme si la chasse à cour était ce qui révélait le mieux la bête en l'homme.